Dans ce journal, direction les Australes, le gouvernement est arrivé à Rapa ce matin. D'ailleurs, le maire les attend de pied ferme avec des projets, mais aussi des inquiétudes, vous l'entendrez. Et on finira par une histoire inédite. Le journal de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Donc ça y est Lucie, le gouvernement est à Rapa jusqu'à vendredi.
Oui, 4 ministres et le président du pays ont fait le déplacement. Ils sont arrivés à Rapa ce matin. 36 heures de visite sont prévues et un conseil des ministres qui se tiendra demain. Pour la commune, c'est la première occasion depuis 2015 de recevoir l'exécutif. Et donc le moment de parler des projets et de demander du financement. Déjà plusieurs jours qu'une liste a été envoyée au gouvernement en prévision de cette visite. Comme l'explique le Tava.
Ça fait 2 semaines qu'ils réfléchissent sur nos différentes doléances et je pense qu'ils vont venir avec les réponses, que ce soit favorable ou défavorable. Mais il nous faut une réponse. Donc la priorité des priorités, bien évidemment, c'est terminer le schéma directeur d'adduction d'eau potable. Mmh. Et ensuite, nous allons mener une étude sur les énergies renouvelables. Donc une centrale hybride par les groupes électrogènes, bien évidemment, plus une série d'énergies renouvelables.
Et pour avoir un aperçu des équipements de Rapa, plusieurs visites sont programmées pour la délégation gouvernementale, centrale électrique, CET, captage d'eau, salle omnisport, infirmerie, pont, équipement agricole. C'est prévu cet après-midi et puis c'est aussi dans le BTP que Lille essaie de se développer.
Financement d'un cocassé. Pour avoir du cocassé, pour les constructions de routes, de maisons, parce que quand tu veux faire ramener un autre cul de cocassé de Tahiti ou d'ailleurs, le faire plus cher que le matériau.
Et la commune souhaite aussi une réhabilitation de son complexe sportif dans l'optique d'organiser les Jeux des Australes dans 8 ans. Il faudra refaire à neuf la salle omnisport, le terrain de foot, construire des tribunes, d'autres plateaux sportifs, un boulodrome. Bref, le gouvernement est attendu de pied ferme sur l'île. À noter que les ministres sont accompagnés d'autres services. Depuis plusieurs jours, un médecin, un dentiste, l'OPH, une assistante sociale et Onati sont sur l'île. Et d'autres services arrivent, une aubaine pour la population car ce genre de visite n'a lieu que 2 fois dans l'année normalement.
Et on reste à Rapa avec cette inquiétude aussi qui devrait être au cœur des discussions.
2 bateaux devraient être mis en service en 2026 et tous les deux pour des rotations vers Rapa. L'Aranoa, petit frère de l'Aranui, et le Nahiro Epe qui remplacera le Tuape 4. On parle de 16 rotations annuelles pour l'Aranoa et d'un doublement du fret et des passagers pour le Nahiro Epe. Alors une bonne nouvelle, oui et non. Oui, car plus de place sur la goélette, ça signifie moins de problèmes de transport pour les habitants qui souhaitent se déplacer. Et non, car ce futur afflux de touristes, surtout avec l'Aranoa, inquiète le Tavana.
Et la population répond ceci. Les voyages par an, sinon, être noyé par les touristes. Et à l'époque de la discussion, nous avons été invités, bien évidemment, par le PDG du Aranui, Philippe Wong. Tout de suite, j'ai dit ma réticence par rapport au voyage programmé par le Aranui, puisqu'il s'agit de faire entre 16 et 22 voyages par an.
Et l'Aranoa n'ira pas seulement à Rapa, mais dans toutes les Australes et les autres mers s'inquiètent aussi. D'après l'élu, ils étaient au départ bien contents, mais ils seraient en train de changer d'avis face au nombre de touristes estimés. Jusqu'à 400 visiteurs par mois, avec un bateau rempli seulement à 50%.
Ça va venir complètement bouleverser notre mode de vie, la vie communautaire, tu pourras dire adieu, quoi. Et c'est sur cet aspect-là qui nous inquiète énormément. Pourquoi se mettre autour d'une table et en parler avec la présidence, avec la présence du gouvernement.
Et c'est bien aussi l'intention de Philippe Wong, le PDG de l'Aranui. Il est d'ailleurs de la visite et il devrait revoir le maire avec le gouvernement qui est donc sur l'île et qui est arrivé via l'Aranui justement.
On reste dans le tourisme avec cette information en bref.
Oui, Tahiti Tourisme qui organise un nouveau concours. Il est ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans qui pourront soumettre des dessins ou des vidéos pour mettre en image le tourisme durable. C'est le thème du concours. Ils peuvent concourir seuls ou en équipe sur la partie vidéo. Et Tahiti Tourisme propose même de consulter sa campagne de sensibilisation. Ensemble, agissons pour un tourisme durable que l'on trouve sur la chaîne YouTube pour trouver de l'inspiration. L'organisation de ce concours a un objectif bien précis, comprendre la perception de la jeunesse polynésienne sur le tourisme. tourisme. C'est à partir du 12 novembre et jusqu'au 4 décembre.
Politique maintenant, nous sommes en pleine période budgétaire.
Et si Warren Dexter ne s'est pas mêlé au déplacement gouvernemental à Rapa, c'est pour une bonne raison. Le ministre des Finances a du pain sur la planche pour fignoler le budget du pays qui doit être discuté ces prochaines semaines à l'Assemblée. Mais quand on parle finances, on parle aussi santé, un point de dépense très important pour le pays. Les deniers publics compensent parfois les déficits de l'assurance maladie, des déficits estimés à plus de 4 milliards de francs l'an passé. Et pour l'adoucir, le gouvernement avait ressuscité une cotisation exceptionnelle, l'AME, une cotisation indolore pour les entreprises et pour les salariés, invisible même si ce n'est qu'une petite ligne sur les fiches de paie. Et pourtant, elle pèse plus de 2,5 milliards, Charlie René.
Oui, 2,5 milliards de francs l'année dernière en tout cas. C'était un peu moins quand cette AME a été créée en 2019, officiellement pour apurer les dettes de l'assurance maladie. Le principe est simple, une cotisation patronale à 0,75% sur les fiches de paie et une baisse équivalente sur la cotisation des prestations familiales, une branche alors excédentaire. Le tout pour 4 ans, pas un de plus. Sauf que fin 2023, le gouvernement Brotherson demande à remettre en place cette AME, en la dopant même, 0,96% puisé dans les prestations familiales, mais aussi dans la branche accident du travail. Devant le conseil d'administration de la CPS, le gouvernement avait été clair, l'exception ne durera qu'un an de plus, pas davantage, juste le temps de mener les réformes de fond qui permettront de résorber le déficit de l'assurance maladie. Depuis l'année passée, des réformes ont bien été discutées, mais aucune n'a été votée et le gouvernement demande donc à proroger la cotisation.
Et les administrateurs de la CPS ont été consultés ces derniers jours sur ce projet, une consultation pour avis et qui s'est faite sur Internet pour accélérer les processus et pouvoir boucler le budget du côté de l'Assemblée. Sauf que la procédure n'a pas convaincu, malgré la présence dans le Conseil de 5 administrateurs représentant le pays. Trop peu de suffrages ont été exprimés. L'avis ne sera donné que fin novembre au prochain CA. C'est surtout chez les patrons aussi que cette cotisation exceptionnelle fait grincer des dents, Charlie.
Et oui, car les employeurs voient bien que l'exceptionnel se transforme en permanent. Certains d'entre eux interpellent sur les conséquences de ces transferts sur les branches prestations familiales et accidents du travail, qui ne sont plus aussi excédentaires qu'à l'époque. Ils estiment surtout que ce jeu de chaises musicales ne doit pas cacher la réalité des déficits de l'assurance maladie et la nécessité de mener des réformes. Elles seront bien menées, elles sont même déjà sur la table, rassure le ministre de la Santé, qui vient de transmettre aux partenaires sociaux un projet de loi sur le rééquilibrage des régimes, à commencer par le RNS. Ces 12 mois de cotisations supplémentaires qui n'épuiseront pas les réserves des deux régimes, estimées à 15 milliards de francs, ne seraient qu'une garantie pour 2025, une année où les solutions de fonds pour assurer la pérennité de l'assurance maladie vont être mises en place. On a déjà entendu ça, rétorquent certains administrateurs.
Voilà le conseil d'administration de la CPS qui sera donc officiellement consulté sur ce sujet ainsi que sur d'autres ajustements des cotisations d'ici la fin du mois, mais ce seront bien in fine les élus de Tarahoy qui décideront de proroger ou non cette cotisation, probablement début décembre.
Dans le reste de l'actualité, Lucie, cette grogne sociale à l'hôpital de Taonné et à la clinique de Paofei.
Atia Imoa a déposé des préavis de grève dans les deux établissements de santé, a annoncé TNTV. À l'hôpital, le syndicat et celui des médecins anesthésistes réanimateurs dénoncent la dégradation constante des conditions de travail. On écoute le docteur Frédéric Monnier.
Les textes qui nous régissent actuellement ne comptent pas le temps de travail de nuit, mais simplement le temps de travail de jour. Ça fait qu'on a des semaines à rallonge qui peuvent aller régulièrement jusqu'à 90 heures avec travail de jour et de nuit. Donc ça implique un épuisement professionnel et ça met en péril nos capacités de garantir la sécurité des patients. Et puis ça fait aussi fuir les compétences du service.
Et à Paofei, le préavis de grève concerne tout le personnel. Les revendications sont principalement des questions d'augmentation de salaire. Faute d'accord dans ces deux établissements, la grève sera effective mardi prochain.
De la culture maintenant dans ce journal avec cette histoire inédite retrouvée par hasard.
Oui, l'ouvrage a été un des best-of du salon du livre. Marota Roa, dernière reine de Tahiti, ses souvenirs recueillis par sa fille, la princesse Tako Pomare Vedel, est édité chez Auvent des Îles. Et c'est toute une époque qui est ici décrite où l'histoire des familles Pomare et Teva s'entremêle à celle de Tahiti en plein basculement. Ranui Donassin, qui était notre invité ce matin, est l'arrière-petit-fils de la reine Maro. Il a retrouvé ce manuscrit, un tapuscrit en fait, dans l'appartement à Nice de sa grande tante, la princesse Tako. C'est au bout de 20 ans de procédure judiciaire avec les héritiers qu'il a pu récupérer enfin cet appartement et découvrir cette grosse enveloppe dans un secrétaire.
Ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'il y avait l'écriture de Jacques Boulaire, le peintre, qui avait marqué « Tako nous enverra la suite après avec des photos qui suivront ». Et donc je lui dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ouvre et c'est là que j'ai vu le manuscrit. C'était un tapuscrit en fin de compte, déjà tout prêt. il n'y avait plus qu'à l'éditer, quoi. Mais après, il fallait lui faire tout un travail de recherche et tout pour remettre tout ça dans le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai rien changé au manuscrit original. C'est tel que c'est écrit.
Et très vite, c'est l'émotion quand il commence à le lire, car ce sont les souvenirs de Maro, la femme de Pomaré V. Elle est au courant de choses que les historiens ne savent pas, assure Ranoui Donassan. Et c'est toute une époque qui est décrite alors que Tahiti bascule dans le giron français. Aussi bien les souvenirs, on a aussi bien les souvenirs intimes d'une femme avec l'échec de son mariage, familiaux aussi avec les affrontements et les liens entre les Pomaré et les Teva, et politique avec l'annexion. Elle a 20 ans quand son mari, Pomaré V, cède les territoires du protectorat à la France.
D'où l'intérêt d'avoir cet ouvrage qui apporte un éclairage différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça va passionner nos jeunes, parce que les Polynésiens d'aujourd'hui ont soif de leur histoire. Et l'avantage, c'est que c'est raconté par Marao elle-même, c'est par Anoui Donassan qui raconte. C'est Marao Tarua qui a écrit ça, parce que Marao Tarua était une femme de lettres qui parlait l'anglais, le français et le tahitien couramment, et qu'il l'écrivait toutes ces trois langues. Donc vous allez voir dans cet ouvrage tout ce qu'elle raconte, et c'est authentique.
Marao Tarua, dernière reine de Tahiti, ses souvenirs recueillis par sa fille, la princesse Tako Pomaré Vedel, est édité chez Au Vent des Îles. Ranoui Donassan sera chez Odyssée ce samedi de 8h30 à midi pour dédicacer l'ouvrage.
Et on termine cette sélection avec, sélection de clichés.
Voilà, le collectif Hohoa revient pour une nouvelle exposition. Elle se tiendra du 15 novembre au 26 janvier. Les années précédentes, aucun thème n'était imposé, mis à part que cela concerne la Polynésie. Mais cette année, l'association de photographes a proposé chemin et trajet. Il s'agit d'explorer les multiples parcours qui façonnent nos vies et notre culture. On écoute la présidente de l'association, Brigitte Bourget.
C'est un sujet extrêmement vaste qui peut paraître simple. Les trajets, on les connaît, il y a les routes, les chemins, etc. Mais il peut aussi être tout à fait métaphorique et parler d'autre chose. Et ça permet à chaque photographe d'exprimer selon sa sensibilité ce qu'il ressent. La manière dont il voit les chemins et les trajets de sa vie ou de ce qu'il peut regarder comme tout un chacun au bord de la route.
Une quarantaine de photographes amateurs comme professionnels ont participé et plus de 100 clichés seront à découvrir dans la salle d'exposition temporaire du musée de Tahiti et des îles. Le vernissage est prévu jeudi prochain à 18h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie, c'est le moment de retourner.